originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kazabonelli.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Ah, bravo Daniel.
Pierre-Emmanuel Barret. Oui. Bonjour aussi. Richard Arnac, Claude Lazier.
Bonjour.
Et nos invités sont Guillaume Wicks et Lucas Belmont.
Bonjour.
Ah, quel bonheur. C'est trop de pression aujourd'hui.
C'est vrai, t'as l'air heureux, toi.
Ah, mais j'adore me lever à 10h30 comme ça.
Non, il est 11h, tu t'es pas levé à 10h30.
Bah si.
Tu t'es douché, tu t'es lavé,
non,
tu t'es
habillé. Non, non, mais je suis pas douché, t'as eu ma gueule.
Il habite dans les locaux de France Bleu.
Lucas Bellevaux et Guillaume Gouy sont nos invités pour le 10e long-métrage de Lucas Bellevaux, Chez nous, qui sort en salle, qui a beaucoup fait parler, même ceux qui ne l'ont pas vu, comme Tom Villa. Et je pense et je crains que vous non plus, vous n'ayez pas compris pourquoi nous avons invité Lucas Bellevaux et Guillaume Gouy.
Bah oui et non. Dis donc, je suis un peu perdu parce que vous venez nous parler donc du film Chez nous, enfin Chez nous, pas ici au studio, vous venez nous parler d'un film qui s'intitule Chez nous, Chez nous. Chez nous étant le studio d'Inter, mais qui est un peu chez tout le monde, sauf aux gens qui fraudent leur redevance. Bref. Alors, donc vous faites un film sur un parti politique assez radical et j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé lequel c'était. Du coup, j'ai décidé de parler un peu au pif du Front National parce que c'est le premier parti qui a réagi au film. Donc je me suis dit, bah tiens, ils doivent se sentir concernés. Parce que c'est l'histoire de Pauline, jeune infirmière dans le nord de la France qui va se faire récupérer par un parti radical afin de se présenter aux élections locales. Une nana pas très compétente mais qui fait peuple pour ratisser des voix. Bah, tu m'étonnes qu'ils gueulent au FN, c'est comme si vous dévoiliez leur tour de magie principale. C'est comme si pour Copperfield ou Emmanuel Béart montraient les câbles. C'est un coup à lui niquer le business tout ça, non c'est pas très sympa. Alors votre film s'appelle donc Chez nous, en référence à ce fameux slogan du Front National « On est chez nous hein ». Et déjà que rien que pour le slogan, c'est n'importe quoi ce parti. Ça veut rien dire, des fois t'as des slogans cons comme ça, c'est comme « Ici c'est Paris », bah oui merci on a une carte, tu vois, c'est, on est chez nous, ok, mais c'est nous, nous c'est qui? Parce que si nous c'est les militants du Front National, désolé, mais moi je sors du nous direct, je veux pas qu'on croie que je fais partie de ces gens-là. J'ai pas épousé ma cousine, moi. Non, la seule fois où j'ai gueulé contre des étrangers, c'était à la finale de l'Euro de foot. Ils nous cassent les couilles, ces Portugais, la finale est chez nous, et en plus, ils nous ridiculisent. Voilà, mais mon racisme s'arrête là, tu vois.
C'est ça.
Non, c'est vrai. Et si le « nous », c'est les Français, c'est-à-dire les Français de tout âge, toute religion, toute couleur, toute origine, bien élevée et ouvert sur le monde, bon, bah, les militants du Front National n'ont rien à voir avec le « nous ». En plus, gueuler « on est chez nous » dans une salle de meeting, n'importe quoi, t'es en pleine zone industrielle, à côté de l'autoroute, dans une salle des fêtes, avec des néons dégueulasses et des chiottes à la turque, et toi, tu cries « on est chez nous ». Non, on est chez les Roms, ou chez Daniel Morin, à la limite, mais non. Non, donc le Front National s'est tout de suite énervé.
C'est une honte, jeune homme.
Le Front National s'est tout de suite énervé, comme quoi, à 3 mois des présidentielles, c'est un film anti-FN. N'importe quoi. Est-ce que DSK s'est manifesté après la série Maison Close? Je ne pense pas. Voilà, c'est pas... Non mais c'est vrai, Florian Philippot a déclaré, assuré ne vouloir rien interdire, mais a réclamé qu'on ait quand même un minimum de décence républicaine, de respect de la démocratie. Je vous laisse finir de rire, hein. Décence républicaine à ce moment-là. Faudrait peut-être retirer Gilbert Collard de Twitter. Philippot qui continue à faire ses vidéos de YouTube là avec sa GoPro pourrie et qui nous casse pas les couilles. Entre nous, je préfère Norman, mais ça n'engage que moi. Alors oui, Lucas Bellevaux, vous avez le sens du timing. Voilà, ça on peut pas vous l'empêcher. Et en même temps, avec le FN, on est toujours un peu dans le timing, hein, dans un perpétuel timing. C'est sûr, quand tu sors un film sur le foot, bah, c'est toujours mieux avant la Coupe du Monde ou sur un film sur Johnny avant le Beaujolais Nouveau. Enfin bon, bref, voilà. Et en plus, faut être flatté, je veux dire, avoir un film sur soi en politique, c'est pas donné à tout le monde, c'est que pour les gens bien. Regardez La Conquête avec Sarkozy, vous voyez, c'est pas Jacques Cheminade qui aura son biopic. Hein, c'est vrai. D'ailleurs, il y a Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, qui a dit sur Twitter « Pauvre Marine Le Pen qui est caricaturée par ce pot à tabac de Catherine Jacob. » Et c'est vrai que Marine Le Pen, c'est Miss Univers. C'est vrai que... Si, quand tu la regardes que d'un œil, elle est pas dégueu. Mais Marine Le Pen n'a pas encore réagi. Et d'ailleurs, fort à parier qu'elle ne réagira pas. Donc, vous voyez, finalement, au Front National, c'est comme à la SPA, hein. C'est toujours les petits toutous qui gueulent, mais le gros chien, il bouge même pas la queue et c'est lui qui a les croquettes. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si vous aimez non. Catherine Jacob en pose à tabac, les slogans pourris et les films intelligents et nécessaires, chez nous est fait pour nous et pour nous tous.
Merci.
Sur France Inter.
Ouais, c'est vrai, rarement un film n'a connu une telle polémique avant même d'avoir été vu, et vous avez même récupéré avec malice les déclarations faites contre votre film en disant ils ne l'ont pas vu et ils en parlent déjà, et en donnant les citations dont Tom Villa parlait, qui sont malheureusement réelles. Quand vous est venue, Lucas Bellevaux, l'idée de ce film? C'est à partir d'un roman, hein?
Pas tout à fait.
Ah bon, pardon.
En fait, non, mais on peut le penser, le penser. Non, l'idée, elle est venue quand je tournais mon film précédent à Arras, ça s'appelait Pas son genre, et le personnage principal était joué par Émilie Dequesne, et c'était une coiffeuse. Et on tournait en pleine pré-période électorale, c'était les municipales, et on voyait le FN monter dans les sondages jusqu'à 30-40%. Et donc, ça voulait dire que 3 à 4 personnes sur 10 des gens avec qui on travaillait, les figurants, les gens qu'on croisait dans la rue, avec qui ça se passait toujours très bien, qui étaient tous des gens très sympathiques, et ben votaient pour le Front National. Et un jour, je me suis dit, ben voilà, ma coiffeuse.
Ce qui est encore le cas des figurants de votre film chez nous, j'imagine.
Absolument.
Quand vous
absolument.
Faites la réunion, le meeting où il y a, 1000 figurants. Vous ne savez pas, vous ne l'aurez pas demandé à tous.
Mais même autour de cette table, ouais, on a dit.
Statistiquement, il y en a.
Statistiquement. Mais voilà, et donc je me suis demandé, mais ma coiffeuse que j'aime tant, qui était un personnage magnifique, que j'aime beaucoup.
Non, ça, excusez-moi.
Non, le...
ma coiffeuse que j'aime tant. Non,
oui, oui, mais c'était ma coiffeuse du film.
Ah, pardon, d'accord. Merci,
et donc, en plus, je suis un coiffeur.
C'est souvent une coiffeuse. Enfin bon, bref.
Mais ça va. Mais c'est que vous êtes...
Mais oh, ouais, j'étais tué aussi, mais je me suis dit non.
Mais moi, je me suis dit oui.
Je suis pas vraiment avec vous parce que j'ai commencé à me toucher, là. J'adore quand on parle du FN, ça m'excite.
Donc, votre chère coiffeuse du film précédent...
Cette coiffeuse, je me suis demandé pour qui elle votait. Et j'avais pas la réponse parce que possiblement elle votait pour eux. Et pourtant je l'aimais beaucoup. Et donc je me suis dit je vais faire un film là-dessus. J'ai pas trouvé la forme tout de suite parce que c'est compliqué de faire un film politique. Et c'est grâce au livre de Jérôme Leroy que j'ai un peu trouvé la forme.
Voilà. Et c'est, alors,
donc c'est grâce à un livre. Vraiment c'était long pour répondre à la question.
Non. L'idée c'est pas le livre.
Voilà. Il s'est servi du livre pour. Toujours est-il que c'est extrêmement proche. De la réalité, tellement proche de la réalité que c'en est troublant. Est-ce que vous, justement, vous avez tenu, vous, à garder cette proximité ou à y rajouter quelques éléments de fiction pour que...
La fiction,
c'est un vrai
elle
travail
est...
d'auteur et pas un doc, quoi.
Oui, ben la fiction, elle est dans la construction des personnages, dans la progression dramatique, dans la structure. Mais après, factuellement, il fallait raconter des choses vraies, sinon on m'aurait accusé
Pourquoi
de mensonge.
Fallait,
parce qu'on m'aurait accusé de mensonge, de caricature. J'aurais mis mes fantasmes.
On vous accuse de caricature.
Oui,
déjà.
Je sais bien, mais de toute façon. Quoi qu'on dise, ils nous accusent toujours de caricature. Dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, on est le diable.
Alors Guillaume Guis, vous dans le film, vous jouez Stanko.
Stanko, c'est ça.
Stanko, pardon, qui est clairement un néo-nazi. On pense au GUD, un mouvement qui n'existe plus maintenant, mais enfin, un mouvement où on veut casser du noir, de l'arabe, du juif. On a la matraque.
Dès que t'as les cheveux courts, tout de suite, bim.
On a les nazis. Le problème, c'est que le GUD a été dissous en 81, mais pour avoir été avant, je les ai...
Mais ça existe encore, il y a encore des groupuscules.
Ça existe encore, ouais. Donc, avec ce... la scène, au début, un entraîneur de football qui dit clairement, je veux pas de racaille dans mon équipe, et puis le mec, il va au vestiaire, il se change, et c'est lui qui devient incontrôlable en termes de violence.
C'est ça.
C'est dans votre nature, on a l'impression que votre personnage...
Dans le film, ouais.
Oui.
Ah oui, c'est, il n'est fait que de violence, ouais, c'est ça. De haine et de violence, mais c'est un parti.
Même à la boxe, il sait pas retenir ses coups, alors qu'il est là avec un sparring partner, il ne sait pas se contrôler.
Il sait pas quoi faire de sa colère, ouais. Et de sa haine.
Et on sait pas d'où elle vient, cette colère et cette haine.
Bah, du fond de lui-même, là, je pense, pour aller aussi loin, il faut avoir quelque chose à régler, sauf que, et des gens lui proposent d'avoir un statut et d'en faire quelque chose de cette colère et de mettre une croyance derrière, donc il se met à les suivre. Mais c'est un peu de la manipulation de cerveau.
Il est ambigu parce qu'il est à la fois tendre avec les enfants, tendre en tant qu'entraîneur.
Bon éducateur
de football,
même. Ouais.
Et c'est bien qu'il soit pas manichéen comme
personnage.
Mais
c'est justement ce que moi j'aime dans le personnage et ce que j'ai aimé jouer, c'est que c'est pas. Souvent, c'est montré comme des icônes presque, les skins ou voilà, des gens qui n'existent pas, qui ont le crâne rasé, qui sont juste la nuit, qui sortent en cape noire. Mais non, c'est des gens qui sont là, qui vont au restaurant, qui sont amoureux.
Ouais.
Et qui ratonne le soir, malheureusement.
Ouais, finalement, est-ce que c'est la banalisation de ce racisme quotidien que vous avez cherché à montrer, que ce soit dans cette gentille infirmière incarnée, très bien jouée par Émilie Dequesne, qui était venue nous parler d'autre chose, mais qui avait évoqué votre projet à ce micro, c'est-à-dire une fille qui, à la limite, ne se croit pas, ne se sent pas du tout raciste, n'est plutôt là pour soigner, et veut même soigner tout le monde sans aucun filtre de religion ou d'origine, qui se retrouve propulsée sur une liste électorale à Hénard, pour pas dire Hénin, et de même que Stanko, bon, il a été néo-nazi, mais on voit que finalement c'est un bon moniteur de sport de l'autre côté. C'est-à-dire cette banalisation, finalement, pardon, hein, presque un sentiment que vous la cautionnez en disant ce sont des gens normaux qui sont comme nous.
Oui, bien sûr,
c'est pas chez nous, c'est comme nous.
Oui, mais c'est pour ça que le film s'appelle Chez nous, c'est chez nous, c'est nos voisins, c'est mais je pense pour le coup que le personnage de l'infirmière est pas raciste. Mm-hmm. C'est les électeurs, ce que j'appelle les électeurs de bonne foi. C'est-à-dire que elle y va par engagement, elle veut continuer ce qu'elle fait tous les jours auprès de ses patients, elle soigne, elle bosse de 6h du matin à 10h du soir, elle est généreuse. Et tout à coup, elle est emportée par son besoin de servir, en quelque sorte.
Mais vous avez voulu montrer quoi avec le film? Parce que vous dites que c'est un film citoyen et pas un film militant.
Ça raconte une manipulation. C'est la manipulation du populisme, de tous les populismes de l'histoire.
C'est plutôt sur la dédiabolisation, alors, le film.
Ça parle aussi de ça. Ça parle de plein de choses. C'est ce qui est bien dans une fiction, dans un film de cinéma qui prend 2 heures. Ça prend du temps pour raconter les choses. C'est qu'on peut raconter beaucoup de choses et des choses très complexes. Que ça soit un engagement qui est provoqué par une intimité, par une blessure intime, comme Stanko ou le personnage d'Anne-Marie
Stanko, Lain. Stanko, dont le prénom est Stéphane, pour que les initiales fassent SS. Tant qu'à faire, autant aller au bout du délire.
Ah, j'avais pas conscientisé ça, c'est vrai. Mais bah oui.
Enfin, premier truc qui m'est venu.
SS.
SS.
Ah oui.
Personne s'en est rendu compte.
Stéphane Stankovic.
Ça a été dissous aussi.
Et ce qui est malin aussi dans le film, c'est justement les propos de cette représentante de ce rassemblement populaire, sa manière aussi d'embrigader d'une certaine façon le personnage de l'infirmière, puisque elle prend aussi, et ce qui était intéressant, c'est de voir comment on peut démonter ce discours, des éléments factuels qui sont pas contestables, en disant vous les voyez tous ces gens que vous visitez, que vous allez soigner, cette misère, ils pourraient avoir un travail, ils pourraient être plus fiers, on pourrait rendre la grandeur de la France, la retrouver, la restaurer. Et je trouve que c'est ça qui est très flippant, en fait.
Et l'embrigadement, la manière dont le personnage André Dussolier décide d'embrigader, de réunir des troupes, ils ont un schéma extrêmement clair et précis à dire, mais non, on n'est ni de droite, ni de gauche, on est pour la France.
Ça, c'est un vieux slogan, ça date du 19e siècle. Donc, il recycle les vieilles choses, mais par rapport à ce que vous disiez, il y a plusieurs discours, toujours. Donc, il y a un discours messianique, grandeur de la France, rendre au peuple, et ça attire les foules. Ça peut les soulever, comme on voit au meeting. Et ensuite, il y a un discours privé, un discours qui s'adresse à l'intime. C'est on a besoin de toi, tu es quelqu'un de formidable, viens avec nous, c'est avec des forces comme, et du talent comme le tien qu'on peut redresser les choses.
Mais pardon, c'est pas ce que font tous les partis, c'est pas ce que font tous ceux qui essayent de réunir des troupes autour d'eux en parlant de la grandeur de la France et en allant voir les uns et les autres en disant vous êtes formidables ou je vous aime, la dernière déclaration d'Emmanuel Macron, enfin d'essayer de...
Ouais, il a craqué, il a fini.
De passer par autre chose que simplement le programme.
Je pense qu'ils le font.
Parce que là, on ne parle pas beaucoup de programme, finalement.
Mais non, mais c'est toujours le même. C'est toujours le même depuis 35 ans, 40 ans.
Guillaume
Non, pardon, en fait, c'est un parti qui fonctionne que sur les frustrations, les peurs, la colère. Quand on parle avec des électeurs du Front National, quasiment la moitié...
Ce que vous avez fait vous êtes
allé... Moi, j'ai grandi à Marseille, donc j'ai forcément parlé avec des gens du Front National souvent. Mais ils votent jamais pour des idéaux ou une conviction politique. C'est toujours sur une frustration, c'est toujours sur quelque chose qui leur manque, une tristesse, de la haine. Il n'y a jamais d'idéaux derrière. Ou
en tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que dédiabolisation ou pas, il y a toujours ces néo-nazis et ces gens réellement violemment racistes autour des services de sécurité et autour du parti. Il y a clairement aussi le changement de nom de parti, le reniement du père, le travail fait autour de l'image qui se veut extrêmement lisse et dans la blondeur, puisqu'il y a même aussi une teinture de cheveux qui est faite pour être pure et blonde.
Dans le vocabulaire qu'on n'emploie pas en public.
Voilà. Vous ne dites pas bougnoule. Par contre, si quelqu'un le dit devant vous, bon, vous n'êtes pas obligé de réagir, vous pouvez laisser faire.
On n'est pas obligé de faire la morale.
Mais dites racaille, comme ça tout le monde comprendra ce que vous dites et vous n'êtes pas obligé de cautionner ou pas.
Ça, c'est presque des verbatims, c'est presque des mots pour mots.
Que vous êtes allé chercher comment?
On trouve tout parce qu'ils adorent se faire filmer, donc ils laissent rentrer des caméras, des micros dans des réunions de section, des choses comme ça. Donc on les entend, il y a plein d'enregistrements de ce genre de choses.
Voulez-vous convaincre Lucas avec ce film? Parce que si c'est un film citoyen, c'est aussi donc pour que le maximum de personnes aillent le voir, mais il est pour moi évident que ceux qui sont déjà anti-FN vont aller voir votre film et donc ils ne sont plus à convaincre. Et ceux qui sont pro-FN vont évidemment le boycotter en disant de toute façon.
Entre les deux, il y a plein de gens. Il y a les abstentionnistes qui vont en se disant qu'après tout, on s'en fout, c'est pareil, etc. Et c'est très important.
Les braves, il y avait Brice Teinturier ce matin chez Patrick Cohen, puisqu'il y a un Cohen aussi qui est présent dans votre film, sans prénom, mais un journaliste de radio qui s'appelle Cohen, Monsieur Cohen. Donc il nous parlait, Brice Teinturier ce matin, des plus rien à foutre.
Donc c'est ça. Donc il y a ceux-là, et puis il y a ceux, il y a les électeurs de bonne foi, enfin un peu comme mon infirmière, qui vont comme ça, parce qu'ils ont envie de renverser la table, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont l'impression que rien ne va plus, il y a la peur du déclassement, et qui n'ont pas envie forcément de cautionner toute l'idéologie rance que le FN transporte avec lui depuis.
Donc vous souhaitez carrément avoir une influence sur les votes de ces personnes.
Je suis pas complètement naïf, mais c'est à eux que ça s'adresse. Et après, j'espère que.
Mais s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui change d'avis,
ça c'est fait.
Vous aurez gagné.
J'en ai vu une.
Ça compte pas. C'est pas.
Non. C'est pas moi. J'ai rencontré une dame dans le Nord, dans le bassin minier, là où on a tourné, qui, en voyant le film la semaine dernière, m'a dit mais voilà, je le ferai plus.
C'est fait, d'accord. Lucas Bellevaux et Guillaume Wyss sont nos invités. Signalons le casting. Aux côtés de Guillaume, vous avez réuni donc Émilie Dequesne, André Dussoli. Les deux nous avaient évoqué le plaisir qu'ils avaient eu à participer à votre projet ici à ce micro lorsqu'ils étaient venus parler d'autre chose. Catherine Jacob, Anne-Marie Vin également, Patrick Descamps, Charlotte Talpaert, Stéphane Caillard, Cyril Descours, Michel Ferracci. Enfin, un casting extrêmement crédible avec un choix de coller à une... Vous faites souvent d'ailleurs dans vos films.
Ça fait un peu mal au ventre, en fait.
Oui. C'était un tournage un peu éprouvant, d'ailleurs.
Psychologiquement ?
Ouais. Mais oui, parce que pour les acteurs, d'une part, il y a des choses à dire quand même. Un acteur, il est obligé d'être sincère quand il joue.
André Dussoli en salaud, il est quand même pas mal. Hein.
Mais il m'a quand même dit plusieurs fois qu'est-ce que vous me faites dire, quoi.
Ça me troublait.
Et Catherine aussi, Catherine Jacob, pour son discours, ça lui faisait mal, quoi. Vraiment.
Ce sont de brillants comédiens et je pense que ça a dû vous aider de savoir que Guillaume Wyss, Émilie Dequesne, Catherine Jacob et André Dussoli acceptaient de faire ce projet. Ça s'est passé dans quel ordre finalement qu'ils acceptent le projet? Ça a été plus facile de le monter et de convaincre les producteurs ou l'inverse?
Tout s'est fait en même temps.
D'accord.
Mais ce qui m'a fait extrêmement plaisir et qui m'a beaucoup renforcé, c'est la rapidité avec laquelle chacun a accepté. C'était le film où ça s'est passé le plus vite entre le moment où j'envoyais le scénario aux acteurs et le moment où ils répondaient.
Ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'On est chez nous, c'est quand même le genre de chanson que l'on fait que l'on crie quand on est dans un stade de foot, sans que ce soit
un
mouvement politique. Il y a le parallèle d'ailleurs, on voit le parallèle.
Mais parce qu'il récupère justement les mouvements populaires, ce parti-là, c'est pour ça.
Comme la Marseillaise, comme le drapeau bleu blanc.
Il se prône même de Jaurès aujourd'hui, ici de Jaurès. Donc.
Et quand vous entendez Black M.
Je suis français.
Qui chante Je suis chez moi.
Peut-être parce qu'il me trouve trop français.
Ça peut être un double sens aussi alors.
Non, mais bien sûr, mais quand moi je suis belge, mais je me sens chez moi ici aussi. Parce que
ouais, vous installez pas non plus. Hein.
c'est trop tard.
Vous êtes en train de devenir raciste.
Je suis le seul belge qui vient payer ses impôts en France.
Ça fait une histoire, ça.
Il est arrivé près de chez nous, c'est pour ça. Vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand vous avez su que Guillaume Guix et Lucas Bellevaux étaient nos invités.
Et oui, quand j'ai pensé à vous, Lucas Bellevaux, j'ai pensé à ce film que vous avez évoqué, Pas son genre, que j'ai beaucoup aimé avec l'excellent Loïc Corbery de la Comédie Française, Émilie Dequesne, adapté donc du livre que vous avez évoqué, une histoire d'amour qui aurait pu se limiter à une belle romance si la lutte des classes ne s'était pas invitée en toile de fond.
Je m'appelle Clément. Et vous, c'est Jennifer.
On dit Jennifer, c'est anglais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis professeur de philosophie.
Et moi, je suis coiffeuse.
Voilà, l'opposition entre... C'est un très très beau film et j'aime l'idée aussi qu'on puisse confronter ces deux univers, voir ce que ça donne, si c'est possible ou pas, si on raconte pas des histoires de contes de fées. Et je me demandais, quand on réalise un film comme ça, c'est difficile de pas préférer un personnage.
Ah, mais là ça risquait pas d'arriver parce que je suis exactement entre les deux. Mm-hmm. C'est-à-dire que, à la fois sociologiquement, même dans mes goûts artistiques, je suis entre Jennifer et Clément. Et,
j'ai eu la sensation que vous préfériez Jennifer en voyant le film. Qu'elle était filmée, alors, au-delà du charisme et du charme d'Emily Deken, mais j'ai eu la sensation quand même en voyant le film que vous aviez un peu choisi Jennifer.
Non, d'une part, elle est plus attachante. Mm-hmm. Immédiatement, lui a quelque chose de froid, quelque chose. Il a une petite névrose quand même affective, donc il est difficilement aimable. Jennifer, j'ai grandi avec elle quelque part. Moi, c'était ma copine d'école, de lycée, de collège. Donc oui, et en plus, ma grand-mère était coiffeuse, donc.
ça vous parle.
Ouais. Oui. Mais oui, j'étais entre les deux, et c'est pour ça que cette histoire m'a touché. Quand j'ai lu le livre, c'est que j'allais d'un à l'autre sans arrêt. Je me mettais en colère contre Clément, parce que le livre était raconté à la première personne. Et donc, il y avait une espèce de regard très clinique, très froid et parfois très violent sur elle. Donc, j'étais en colère contre lui. En même temps, par moments, je le comprenais. Et avec elle, la même chose, parce que par moments, elle est très énervante elle peut exaspérer Jennifer. Et donc, j'aimais les deux. Voilà, j'ai jamais fait le choix entre un et l'autre.
Et quand je pense à vous, Guillaume, je pense à un film que j'ai adoré, où vous ne tenez certes pas le premier rôle, mais où je vous ai trouvé vraiment très troublant.
Una noche el río paso, ay Carmela.
Moi, cette dame, je la regarde toujours, comme au premier jour. Mais je savais qu'en sortant de tôle, ça recommencerait entre nous.
En attendant, elle appartient chez Chine.
Comme ça, elle appartient.
Elle n'a peut-être pas le courage de te le dire. Chantal ne t'aime plus.
Non, je ne dis pas Chantal. Tu dis pas son prénom. Il n'y a que moi qui peux.
C'est Les Rois du Monde de Laurent Lafargue avec Sergi Lopez, Céline Salette, Éric Cantona, Romane Boringer. Un casting exceptionnel. Et je crois que c'est un film. Moi, je vous ai trouvé vraiment incroyable
c'est
dans ce film.
Ce film, merci. C'est un tout petit film qu'on a fait en plus avec vraiment pas grand-chose et qui est sorti très peu. Super qu'on en parle là, c'est bien.
Et justement, vous lancez dans ce projet-là, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'aller sur un film comme ça, où il n'y a pas forcément un gros budget, il n'y a pas forcément une grosse promotion autour, et que vous savez que...
Moi, je ne pense pas à la promotion quand je fais un film. Hein. C'est le metteur en scène, c'est ce qui compte autant pour Lucas que là pour Laurent Lafargue. C'est la nécessité qu'ont les gens à raconter des histoires et à faire des films.
Bon, ça a un lien particulier avec Laurent Lafargue, vous connaissez, où il y a...
Oui, bah après on est un peu de la même génération, avec Céline Salette et tout ça, donc on se connaît bien.
Qui était venue parler de ce film, d'ailleurs, à ce micro, oui.
Elle était venue parler de ce film, d'accord.
Mais oui, elle nous avait dit des trucs sur vous, absolument.
Insupportable. J'imagine. Vous incarnez un personnage ambigu, en plus, un personnage, en tout cas, qui peine à exister dans ce Lot-et-Garonne, Casteljaloux, puisque c'est là que ça se déroule, où vous êtes un garçon qui aime les garçons.
Ouais, et qui a du mal à l'assumer parce que c'est un monde viril, mais quand il l'assume, il se met à l'assumer très très fort et presque de manière démonstrative.
Oui, c'est sûr qu'en parallèle avec un Éric Cantona, je pense que c'est aussi le plaisir de jouer avec Éric Cantona qui incarne une forme de virilité absolue dans le film.
C'est le seul mec de toute ma vie à qui j'ai demandé un selfie, je crois. Parce que j'ai grandi à Marseille et vraiment, il fallait que j'envoie ça à toute ma famille, mes amis. J'étais avec Éric Cantona.
Vous étiez impressionné même dans le jeu? Alors que.
Mais il est impressionnant, de toute façon.
Il est impressionnant dans la vie, dans sa stature.
Ouais, de prestance, ouais.
Mais lui était un débutant, un peu affirmé comme comédien. Vous étiez plus sûr de vous dans votre métier, non?
Ouais, non, je dirais pas jusque-là. J'étais pas plus sûr que lui, mais. Non, je sais pas s'il était débutant, il était.
Il avait fait quelques pièces,
oui, mais.
C'était quelle année?
Oui, c'est sûr.
C'était il y a même pas deux ans, si.
Le temps passe tellement vite en
si bonne compagnie. Lucas Bellevaux et Guillaume Guillet sont nos invités. Nous parlons donc de Chez nous, le film qui sort sur les écrans, le 10e long métrage qui sort aujourd'hui sur les écrans. L'histoire de Pauline, cette infirmière. D'ailleurs, vous l'avez choisi infirmière parce que c'était aussi un métier qui vous parle, parce que c'est un métier de compassion, de partage, de.
Oui, ça racontait quelque chose d'elle, son métier. Et puis ça permettait aussi d'aller chez les gens, de rencontrer des gens différents. Voilà, c'est
est-ce que c'est crédible une infirmière qui soigne justement toutes tous les sexes, toutes les races, toutes les origines, même si le mot race ne veut plus rien dire, mais enfin toutes les origines, toutes les religions, c'est crédible qu'elle bascule comme ça dans un mouvement
le bloc patriotique, ça s'appelle. Enfin, il y a deux parties, hein. Il y a le bloc patriotique d'une part, qui est un peu le parti du père, et puis il y a le RNP, Rassemblement National Populaire, qui est le mouvement monté par la fille. Mais bien sûr, on voit les infirmières dans le mouvement hospitalier, notamment. Ça monte le vote FN.
Et Anne-Marie Vin qui joue le rôle d'une prof, d'une enseignante.
Oui. Et là aussi, c'est la même
chose.
Là
aussi, c'est étonnant.
Ouais. Mais c'est des professions qui sont. Il y en a toujours eu. Et puis ça monte aussi.
Il y a des syndicats enseignants qui sont orientés extrême droite.
Donc c'est pas naïf. Vous avez volontairement choisi infirmière et professeur. Non, mais je veux dire.
C'est des professions qui sont en première ligne. C'est-à-dire qui sont au contact direct de la société, sans filtre, sans protection presque.
C'est ce qui fait qu'on dit on les aime, ces gens-là.
On les aime à la fois pour leur engagement et en même temps ils sentent bouger la société en direct.
Et pardon, à la fin du film, ça m'a un peu troublé la fin du film. Je suis...
Oui, ils meurent tous à la fin.
On va pas le dire, mais c'est un choix d'auteur là.
Mais c'est un choix radical. Mais comme la fin de Passons-genre l'était d'ailleurs. Il y a un moment, j'aime bien que les histoires ne se finissent pas vraiment. C'est-à-dire que je donne une piste et après les personnages doivent vivre leur vie et le spectateur doit être libre de réfléchir.
Le papa, c'est ça qui m'a troublé, le papa communiste, on va pas dévoiler la fin, on va pas divulgâcher la fin, mais le papa communiste rejette sa fille au début. Or, on sait aussi qu'il y a beaucoup de voix communistes qui vont au bloc parti ou au frontiste,
mais,
au Front National.
Mais pas tant que ça finalement, pas tant que ça. C'est plutôt des gens qui passent directement du PC, d'un vote PC à un vote FN, il n'y en a pas énormément. C'est plutôt la génération... Oui. C'est plutôt la génération d'après. Plutôt la génération d'après. Après, quand on regarde en grand...
Donc les fils de communistes ou les filles de communistes.
Voilà, voilà. C'est plutôt une histoire de transmission qui se fait pas, des luttes sociales, etc. Peut-être de rejet du père ou de colère contre la génération précédente. C'est presque une lutte, un conflit de génération. Mais le c'est pas automatique, le passage du PC au FN.
Mais le rejet du père, visiblement, ça se passe aussi bien à droite, à gauche, dans tous les partis.
Absolument, mais ça raconte ça aussi, le film. C'est que je pense qu'il y a des raisons extrêmement profondes et intimes aussi qui font qu'on bascule... Dans un extrême.
Lucas Bellevaux, le nouveau Lucas Bellevaux sur un événement, c'est aujourd'hui et ça s'appelle Chez nous. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré.
Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez pourquoi Félix le chat, il n'a pas d'enfant?
Non.
Parce que sa femme, elle est minouposée. Assez rigolé. On l'a appris hier, le 20 mars prochain, dans un mois, se tiendra le premier grand débat télévisé entre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Jingle. Les débats, c'est très très bien. C'est plein de gens avec des micros qui essayent de parler plus fort que les autres et un animateur tout petit et pas très charismatique qui tente de distribuer la parole mais personne le respecte. En fait, les débats, c'est comme la bande originale, sauf que David Pujadas, lui, il est pas pédophile. En tant que chroniqueur de France Inter, confiant de sa mission de service public, il est de mon devoir d'inviter les Français à suivre ces débats afin de décider en leur âme et conscience à qui ira leur vote. Mais en tant qu'humain, un doué de raison, il est de mon devoir de rappeler à ces Français que toute personne se présentant à une élection présidentielle est par définition un dangereux mégalomane égocentrique, souvent doublé d'un gros fils de pute. Donc, comme je suis sympa, je vais vous faire gagner 3 heures en vous résumant ce qui va se passer pendant ces débats.
S'il te plaît.
Bonsoir. Avant toute chose, je tiens à saluer tous les Français. Vous mentez ! C'est moi qui tiens à saluer tous les Français ! Car ce que je veux leur dire ce soir, mais quelle honte ! Vous mentez tous les deux aux Français. Et quand je serai président, je serai... Non, c'est moi qui sera président ! Non, c'est moi qui sera président ! Mais cessez vos enfantillages, car... 1, 2, 3, c'est moi qui sera président. T'as pas le droit, j'avais dit Prums. Moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire Truc. Ouais, mais moi, j'ai pas été condamné dans l'affaire Machin. Eh ben, moi, j'ai jamais été condamné dans aucune affaire. Oh, le loser, il a jamais été condamné. Puceau, tu seras jamais président. Miroir magique, bouclier qui renvoie tout. Ta mère, tellement c'est une grosse pute, ça chatte, c'est le trou de la sécu. Ah non. Non, là non, là, souviens-toi, au dernier du siècle, on avait dit voler les Français, d'accord, mais insulter les mamans, c'est pas bien. autant pour moi. Hé,
Allez, attendez, j'ai une idée. Pour faire croire que la vie des Français nous intéresse, on va répondre aux questions d'un panel représentatif avec une mère au foyer dépressive, un syndicaliste agressif pour donner une mauvaise image des syndicalistes et un étudiant relou. Ah ouais, super, ok, bonne idée, ouais. On vous écoute, jeune homme. Oui, bonjour, je m'appelle Pascal, je suis l'étudiant relou et j'ai une question concernant la corruption en politique. C'est toi qui réponds. Ah non, c'est lui. Non, c'est lui. Très bien, je vais prendre mes responsabilités. C'est une question intéressante et je vais y répondre rapidement. Salut, c'est Nagui. Vous auriez pas vu passer un enfant avec des mains attachées dans le dos? On va passer au programme politique plutôt. Les programmes, la séquence des programmes. Pour savoir ce que les candidats vont pas faire quand ils seront élus. Moi, ma priorité, si je deviens président, c'est l'emploi. Ah non, 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 l'important c'est la croissance. Non, 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 l'important c'est la dette publique. Non, 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 l'important c'est la retraite. Non, 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 l'important c'est l'islam. Ah oui, 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 là, oui. Oui, oui, là, oui, tout pareil, oui, l'islam, ça va bien, oui. Stop ! Je suis Jean-Pierre Elkabbach ! Vous pensez pas que la priorité, c'est renouveler la classe politique ? On voit les mêmes têtes depuis 50 ans, et je le sais, ça fait 87 ans que je couvre les campagnes, et je... Ah, mon cœur ! Oui, c'est encore Pascal, l'étudiant. La mort de Jean-Pierre est une triste nouvelle pour sa famille, mais une grande nouvelle pour le journalisme. Oh, arrêtez tout, je suis Routel Krief. Oh putain, je l'avais oublié. Pour conclure ce débat, je vais vous demander de résumer rapidement votre programme. Eh bien écoutez, c'est très simple. Moi, ce que je veux avant tout, c'est enculer les Français. Non, c'est moi qui veux enculer les Français. Non, c'est moi. Vous avez volé mon programme, je voulais les enculer en premier. Oui, mais moi, je les enculerai plus. Moi, plus profond, moi, plus fort, plus vite. Jusqu'au bout de la... Ferme ta gueule. Hein, vive la République et vive la France. Merci de m'avoir écouté.
Allez voir la vidéo parce qu'il y avait des marionnettes hein, qui venaient faire...
Ah oui, une vraie performance visuelle.
Ah, une chanson de geste.
Exactement. Je serai au caveau de la République, là.
Nous allons évoquer des années en musique, des années de vos carrières, Guillaume Gouix et Lucas Bellevaux. On va commencer dans les années 80 où Lucas Bellevaux, écoutez...
Comme un avion sans air.
Là, quand vous écoutiez Charlie Couture, c'était Lucas Bellevaux, le comédien.
Absolument. C'est même l'époque où j'ai tourné le. Enfin, la première fois, j'ai joué dans un film au
Allons
cinéma,
enfants.
Allons Enfants. Ouais,
ouais Divoissé.
Divoissé, qui était un beau film.
Bah, qui est un film culte.
Ouais, ouais, ouais. Enfin, pour certains.
Bah, si, si, si.
Ouais,
c'est, si, c'est un film marquant, oui. Écoutez, Jean Carmé.
Ouais, ouais. Et à l'époque, je me souviens, j'habitais dans une chambre de bonne. J'avais pas. J'avais rien, quoi. C'était une chambre de bonne minuscule. Et quand on part en tournage,
bah, on est. Vous aviez 20 piges, hein.
J'avais même pas, ouais, ouais, ouais. Même pas 20 ans. Et donc, ce qui était extraordinaire pour moi, c'était d'habiter à l'hôtel et d'avoir une salle de bain et de l'eau chaude. Et donc, j'écoutais Charlie Licouture dans la baignoire avec un Walkman.
Voilà. Dans ces années-là, alors que vous démarriez donc, en écoutant Charlie Couture, débarquez sur notre planète, Guillaume Gouix, et à la maison, maman écoutez.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves, j'en aime pas.
Les chansons déjà engagées, donc j'imagine que papa, maman, en aimant, parce que c'était. Il y avait des chansons qui étaient censurées, qui étaient interdites aux radios. Brassens, si Brassens passait à la maison, c'est que. Vous...
Brassens, Léo Ferré,
ouais, voilà.
Bachougne, après Renaud.
Salut les copains, quoi, c'était.
Ouais, salut les copains,
vous êtes né à Aix-en-Provence, hein, vous avez beau dire je suis marseillais.
Bah, je suis né à Aix, mais j'y ai jamais vécu.
Par contre, ah, d'accord.
Je suis juste né parce que je vais vous raconter ma vie, donc tout le monde se fout un peu, mais ma mère
non.
A suivi son gynécologue, ça. Hein.
Ouais.
Qui est allé à Aix,
obstétricien.
Voilà, donc elle l'a juste suivi pour.
C'est juste l'adresse, mais... c'est juste l'adresse de l'hôpital et de la clinique, quoi. C'est pas.
C'est ça.
C'est ça. C'est rien de plus. C'est votre sœur qui faisait du théâtre et qui vous a donné le goût à ce métier.
Exactement. Et dans un cours de village, un peu comme on va au judo, là. Et puis voilà, je me faisais chier à l'école, donc j'apprenais ses textes à elle. En fait, elle jouait avec.
Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que quand on s'ennuie à l'école, on n'a pas envie d'apprendre par cœur. Des textes de comédiens, donc il y a
si,
bien autre chose qui vous a donné envie.
Parce que j'étais passionné par ça, parce que je voilà. Trouvais ça beau, parce que la prof de théâtre qui en parlait bien, et du coup ça me passionnait, alors qu'à l'école, je j'arrivais pas à m'intéresser, j'arrivais pas à prendre ça comme une histoire qu'on me racontait, je comprenais pas ce qu'on me racontait.
Il y a un film qui vous a marqué, qui vous a donné ou une pièce de théâtre, je sais pas, qui vous ont marqué, donné envie d'être comédien.
Il y en a beaucoup, mais les films qui m'ont marqué, le premier film qui m'a marqué, c'était Le Baron de Munchausen, j'étais enfant, de Terry Gilliam.
Ouais. Et un bon délire.
Et après, tous les Cassavetes, Opening Night, tout ça, ça m'a donné. Ça m'a donné envie d'être actrice, en fait, Jenna Rollins, je
crois. on va en reparler d'accord. Opening Night.
En 2003, Luc Cabelvaux, écoutez. Non seulement vous l'écoutez, mais choisissez cette musique, hein, puisque c'est la BO. C'est votre trilogie.
Absolument. Enfin, c'est un bout, mais c'est une musique
oui,
de. Oui,
c'est un
bout. Non, mais parce que
on va s'engueuler maintenant.
Non, mais c'est une couleur parce que il y avait trois films et donc il y avait trois musiques assez différentes, même si il y avait
trois humeurs.
Des
oui.
Cons, ouais. Ouais. Et c'est une musique de Ricardo Delfra qui était très très belle et donc j'ai beaucoup écouté.
On a choisi pour Après la vie le mélodrame.
Oui, absolument. C'est la fin, je crois, c'est le générique de fin, ça.
Quelle est pour vous l'importance de la musique dans un film? Parce que, par exemple, chez nous, elle n'est pas extrêmement présente.
Ouais, mais plus que...
La radio est présente, oui.
Oui, oui, il y a pas mal de musique. Il y en a moins que dans les films américains, je vous l'accorde. Il y en a tout le temps. Bien sûr, la musique, elle doit arriver comme élément dramatique, comme un contrepoint presque. Elle doit raconter pas nécessairement ce qu'on est en train de voir. Elle doit provoquer un décalage ou une tension. Et donc, j'ai pas envie de la banaliser en mettant tout le temps. C'est vraiment un rôle dramatique.
Et la radio est très présente dans votre film, que ce soit avec le journaliste Monsieur Cohen qui... parce que c'est dit sur ce ton-là, très, très agressif, et
on pressent tout ce qui est
pire. On réentend. Ouais. Non, mais on réentend Marine Le Pen à ce micro ici, à interpeller comme ça Patrick Cohen, en Monsieur Cohen, plutôt que de dire Patrick Cohen, autant qu'elle veut se faire appeler Marine et pas Madame Le Pen.
Absolument. Mais il y a du subliminal.
Parce qu'elle veut faire oublier ses racines dont on va parler, parce que c'est justement aussi un côté assez intéressant de cette dynastie. Il y a Monsieur Zemmour qui est présent aussi. Ça a été simple d'obtenir d'ailleurs le droit de reproduction de ces interventions radiophoniques.
Oui, parce que c'était les droits appartenaient à la radio. Donc voilà.
Vous les avez demandé, vous les avez eu.
Oui.
D'accord. Et pour vous, cette présence radiophonique donne une espèce de ponctuation.
Non seulement ça, mais surtout c'était pour raconter l'espèce de fond sonore dans lequel on baigne quand même depuis quelques années.
Une autre forme de banalisation peut-être aussi.
Ah oui, quelque chose qui la nourrit. On a entendu Zemmour pendant un an, tous les jours à la radio, à la télé.
Dire des bêtises.
C'était aberrant. Et ouais. En plus présenté sous des airs scientifiques. Il m'a beaucoup fait rire quand il disait « Mais vous comprenez, j'ai travaillé 2 ans sur ce livre, il a travaillé 2 ans pour raconter un siècle d'histoire de France. Les historiens, ils travaillent 40 ans pour raconter 2 ans.
Il est peut-être plus rapide, c'est tout.
Voilà, ça, il est rapide. Et donc, il dit des âneries, mais surtout, il véhicule un discours dégueulasse, d'une violence extrême. Enfin,
rendu quotidien, justement, par ce côté, la proximité de la radio.
Ben oui, parce que finalement, on donne la parole. On donne la parole et les gens la prennent. Mais comme moi ici, hein. Mais sauf que lui, il dit pas les mêmes choses. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incitation à la guerre civile. Mm-hmm. C'est un peu
clairement,
ça, quand
clairement,
même.
Ouais.
Ah oui, clairement.
Guillaume Gouy, dans ces années 2003, vous démarrez votre carrière. Vous avez votre premier rôle au cinéma et vous écoutiez. Vous n'étiez pas le seul.
Et j'ai été honnête, je cherchais à faire l'élitiste quoi.
Mais ça, non, mais c'est bien. Et ça c'est vraiment la bande son de votre vie à ce moment-là.
Ça c'est permanent. Ouais. Ça accompagne tout, le café le matin.
Ah, donc style, ça porte bien son
théâtre,
nom. Quoi. C'est toujours là. Quoi.
Ouais,
style,
c'est
temps. Toujours tout le temps.
Les pétards le soir. Voilà.
Soyez pas trop honnête, faites gaffe quand même. Ça passe à la radio, ce que vous dites.
Avec modération, non, on peut lancer
temps,
pas.
Non, pas de prosélytisme. Non, faut dire que c'est interdit. Voilà.
C'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps.
Oui, c'était à l'époque. La prescription.
C'était quoi? C'était il y a longtemps. C'était mardi ou lundi ou mardi, quoi. C'est ça. Les lionceaux, quel sentiment on a au premier clap, au premier moteur, au premier moment où on fait...
J'avais tourné un peu avant, j'avais fait d'ailleurs en 2000 un téléfilm pour Arte, dans lequel Lucas s'en souvenait pas quand on s'est rencontrés, mais dans lequel je jouais avec Lucas.
Ah, génial, voilà, vous êtes rencontrés sans savoir, en fait.
Ouais, voilà. À Marseille. Il faisait un policier qui venait m'interroger, et donc c'était un téléfilm Arte de Christophe Lamotte.
Dérive. Donc,
moi, je m'en souvenais, Dérive, parce que c'était ma première expérience, donc je me souvenais de Lucas, lui, on avait eu d'autres, mais... mais Les Lionceaux, c'est un film complètement barge, en plus. Un film d'art et d'essai, sans texte, vraiment, avec Dany et Jacquenot, qui, c'était peut-être eux qui fumaient l'herbe de Provence, le soir. Plus que moi. Donc non, je sais pas, ça a été à Cannes et tout ça, c'est un souvenir génial qu'on me donne la place de faire ce que j'aime, moi.
Non, mais enfin, ce qui est dingue pour avoir vu différents films où vous incarnez différents personnages, c'est Lucas, la qualité du jeu de Guillaume Gouy, c'est absolument... il est toujours crédible, quoi qu'il fasse.
Oui, absolument.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fait plutôt peur. Moi, je voulais pas l'inviter, d'ailleurs. Parce que quand j'ai vu votre film, je dis non, on va pas inviter un facho comme ça. Puis après, je me suis rappelé que c'était un comédien, et un très bon comédien, mais il est crédible.
T'as
quoi.
Quand même bien pété la gueule en arrivant.
Ouais, c'est vrai. Il m'a fait peur, il m'a fait peur.
Non, mais c'est assez...
Merci au nom de l'équipe.
Lucas, oui, j'en
souviens. Non, c'était pour dire du bien. Donc. Non, mais c'est un mélange de sincérité absolue dans le sens où il juge pas son personnage, il amène pas comment un surtexte, un truc. Il le joue vraiment. Et en même temps, il y a une grande connaissance de son métier d'acteur. Donc c'est un mélange de générosité absolue et de contrôle. Donc c'est un acteur avec qui on peut travailler, milier comme ça aussi. C'est très agréable.
Guillaume Gouix, donc, devant la caméra de Lucas Bellevaux, aux côtés d'Émilie Dequesne, d'André Dussolier, de Catherine Jacob, d'Anne-Marie Vin, entre autres. Anne-Marie Vin que nous recevrons pour un autre...
Babyphone, non?
Pour Babyphone,
ouais. Elle est super dans le film. Prochaine. Dans Chez nous, elle est super, Anne-Marie Vin. Elle n'a pas un rôle facile non
avec
plus.
Avec Mélissa Douni.
Non.
Ça sera jeudi prochain. Non, elle n'a pas un rôle facile. Ouais. Mais... Elle conclut le film. Allez le voir, vous comprendrez. Chez nous, ça sort aujourd'hui. Nous avons demandé à un habitué de la maison, à Renaud Dely, ancien rédacteur en chef de l'Obs, nouveau directeur de la rédaction de Marianne. C'est pour ça qu'on a le numéro de Marianne avant qu'il ne sorte, il est tout frais, de venir nous parler. Merci.
Bonjour.
De revenir à ce micro que vous connaissez bien. Parce qu'avec Daniel Morin, vous croisez quand? C'est jeudi matin?
Jeudi, ouais, demain. J'ai déjà croisé cet individu, je le confirme.
C'est ça. Vous signez la vraie Marine Le Pen, une bobo chez les fachos. Un titre qui rappelle finalement ce qu'elle n'arrête pas de dénoncer. C'est-à-dire, elle est la candidate anti-système. Et en fait, vous expliquez qu'elle est totalement la fille du système.
Marine Le Pen, c'est la suite de la métamorphose du Front National que raconte très bien le film de Lucas Bellevaux. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire oublier ce qu'était le Front National, ce qui est un mouvement profondément historicisé. Il y a évidemment toute la question du rapport au père, et en même temps, elle est totalement le produit de cette filiation. C'est-à-dire qu'elle est totalement fidèle à l'héritage du père, qu'elle a été construite par lui, et qu'elle a été en permanence chouchoutée, si j'ose dire, chouchoutée, gâtée, par le père d'abord, c'est l'héritière d'une PME familiale, par un système médiatique aussi, à un moment qui s'est emballé autour justement de ce ravalement de façade que Marine Le Pen a essayé d'impulser à l'extrême droite. Et puis elle incarne en fait cette soif de reconnaissance permanente de l'extrême droite qui bascule entre d'un côté la violence, la marginalité... le rejet absolu du système, et puis de l'autre côté, la volonté absolument d'intégrer ce système, d'être reconnu par ce système. Et c'est effectivement en ce sens que Marine Le Pen est vraiment une bourgeoise qui n'a que la soif d'être reconnue, intégrée par ce système.
Alors il y a plusieurs, angles, il y a le côté politique et le côté personnel. Côté personnel, il y a la fortune, il y a les différentes propriétés, les maisons, l'argent, encore des affaires qui explosent régulièrement.
À plaindre parmi les candidats.
Pardon ?
Je dis, il n'y en a aucun qui soit vraiment à plaindre parmi les candidats.
Non, en tout cas,
pas beaucoup de candidats du peuple.
C'est celle qui est visiblement la mieux née de tous les candidats, qui a élevé peut-être dans la soie, pour reprendre l'expression traditionnelle, et qui dénonce le plus ceux qui sont justement les candidats des riches, et en disant, moi je suis proche du peuple, alors qu'elle n'a jamais été.
Absolument.
Proche du peuple.
C'est beaucoup moins que son père d'ailleurs. Son père, Jean-Marie Le Pen, était né dans un milieu plus miséreux, mais en tout cas beaucoup moins riche. Elle est née, et lui d'ailleurs, son père lui en a fait le reproche, elle est vraiment née effectivement dans un milieu extrêmement riche. Elle a un patrimoine immobilier d'ailleurs considérable, et aujourd'hui elle est d'ailleurs sous le coup d'une enquête parce qu'elle est accusée d'avoir sous-estimé ce patrimoine immobilier, et ça pourrait éventuellement conduire à une peine d'inéligibilité dans quelques années, c'est possible. Et elle est issue de ce milieu bourgeois qui en même temps a fréquenté, alors de par le père d'une part, et puis d'autre part de par son propre parcours à elle. Très tôt, elle a fréquenté l'extrême droite, y compris l'extrême droite la plus musclée, les fameux Gudard, le GUD dont vous parliez tout à l'heure. Bah, son entourage le plus proche, ses amis de la fac d'Assas, qui était la fac où sévissait le GUD dans les années 80 et les années 90, eh bien, ce sont ses plus proches amis depuis 30 ans, et aujourd'hui, c'est son plus proche entourage. Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, des tas de gens qui d'ailleurs aujourd'hui sont sous le coup d'enquête aussi pour des affaires de financement troubles du parti. Tout ça, c'est l'entourage de Marine Le Pen. Donc elle est elle-même une synthèse de l'extrême droite dite fréquentable ou présentable, cette bourgeoisie honorable qui a soif de reconnaissance, du patrimoine, de l'héritage familial qu'elle a hérité donc de son père Jean-Marie Le Pen, et puis de sa propre formation et de son propre entourage, de ses propres amitiés, elle-même sulfureuse et issue de l'extrême droite.
Alors,
la plus radicale.
Il y a deux, trois moments dans son histoire où la scission se fait avec le père de la naissance du nouveau parti, Bleu Marine, d'occulter justement le nom de Le Pen pour oublier ce passé qui lui colle un peu. Les moments les plus forts pour vous, c'est le 1er mai, c'est quand son père intervient à la tribune et la ridiculise devant tout le monde.
Alors ça a été le 1er 2015 où effectivement elle a été humiliée parce qu'il a jailli, on s'en souvient, dans sa parka rouge pour prendre la parole juste avant qu'elle s'apprête elle-même à prendre la parole. Et le processus de rupture.
Mais vous dites, c'est vraiment passé un truc ce jour-là en tout cas.
C'était en germe depuis qu'elle a pris les rênes du Front National, c'est-à-dire depuis 2011. En janvier 2011, elle devient présidente du Front National. Il faut bien voir que de 2002 à 2011, elle est totalement servie, choyée par son père pour prendre la succession. C'est-à-dire que son père décide de lui confier les rênes du Front National et il écarte à partir de 2002 tout concurrent potentiel. En 2011, elle devient patronne du FN et dès lors, elle commence à être gênée, mais non pas sur le fond, des propos de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, mais parce qu'il fait tâche dans le décor. Et donc, il faut le reléguer. Et lui, évidemment, il y a le côté, il est surnommé comme ça par beaucoup de proches de Marine Le Pen, c'est Papy Daniel. C'est-à-dire que lui, évidemment, ne veut pas...
Parce que j'ai appris dans le livre. Je trouve ça génial, le papy. C'est elle qui, quand elle est énervée, elle l'appelle
Absolument. Et lui ne veut évidemment pas disparaître du paysage. Donc il y a une rivalité, mais c'est simplement une guerre d'ego, plus peut-être une dimension psychanalytique, mais qui m'échappe, c'est pas ma spécialité. Mais en tout cas, sur le fond politique, il faut bien voir que jusqu'en fin 2015, elle assume tout. Elle assume tous des propos. Elle a toujours défendu son père lorsqu'il était accusé et parfois condamné pour antisémitisme ou pour incitation à la haine raciale. On se souvient par exemple des terribles propos qu'avait eu Jean-Marie Le Pen en 2014, c'est récent, à propos de Patrick Bruel. Et du fameux mot qu'il avait eu sur la fournée. En l'occurrence, quand on relit les déclarations de Marine Le Pen à ce moment-là et les communiqués qu'elle publie, ce qu'elle reproche à son père, c'est pas le contenu de ses mots, c'est le fait que ses adversaires politiques pourraient s'en servir éventuellement pour accuser une nouvelle fois Jean-Marie Le Pen d'être antisémite.
Comment peut-elle passer à travers les gouttes comme ça aussi facilement? C'est-à-dire, comment peut-elle être crédible en disant « je suis anti-système, ni de droite, ni de gauche, regardez, ils vous mentent tous », et chaque fois qu'on relève quelque chose, il y a du mensonge, elle est totalement fille du système, elle cautionne ou elle cache des déclarations antisémites, violentes, racistes. Elle va dans des bals populaires danser en Autriche avec des néo-nazis. Enfin, je veux dire, c'est juste inconcevable que on ne s'en rende pas suffisamment compte. Ou alors finalement, les gens disent, c'est justement le système. C'est les médias qui montrent ça, c'est faux, ils nous mentent et c'est elle qui dit la vérité.
Je pense qu'il y a deux dimensions qui peuvent notamment expliquer ce phénomène que vous évoquez. C'est d'abord, elle n'est forte que de la faiblesse des autres. C'est-à-dire que si les deux, par exemple, les deux derniers quinquennats qui viennent de s'achever sous Nicolas Sarkozy puis sous François Hollande avaient été des réussites, le Front National ne serait pas aujourd'hui estimé autour de 25, 26, 28% au premier tour de la présidentielle et au-delà de 40% au second tour éventuel où Marine Le Pen serait présente. C'est-à-dire qu'elle profite d'abord de la faiblesse et de l'échec et de l'impuissance du politique. C'est pas tant il y a la question de la trahison ou du reniement de certains responsables politiques au pouvoir, mais c'est surtout l'impuissance. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que les politiques qui nous gouvernent, de droite comme de gauche depuis 30 ans, sont impuissants devant la mondialisation, devant la construction européenne, etc. Par définition, comme elle, on ne l'a jamais essayé.
Pardon ?
C'est pas vraiment qu'une impression, d'ailleurs.
Mais ça, c'est l'argument qui porte dans ces cas-là et sur lequel elle surfe et qu'on entend beaucoup. Et moi, je connais très bien la région du film de Lucas Bellevaux. Quand on discute avec les gens là-bas, les électeurs du FN, ils disent « elle, on l'a pas essayé ». Et ça, c'est un argument qui est terrible.
C'est vrai, c'est une phrase qui revient souvent. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, ça n'a pas marché. On va essayer.
Elle, au moins,
pas,
on l'a pas essayé.
Alors, on est en démocratie, autant lui donner sa chance.
C'est, voilà, c'est ce, discours, ce qui est terrible, parce qu'on voit, y compris au niveau local ou au niveau régional, lorsque le Front National a des responsabilités, c'est un parti qui non seulement n'est pas plus pur et éthique que les autres, et c'est même plus, bah, bien souvent le contraire. On voit le nombre d'affaires de corruption qui se multiplient quant à la pratique simplement du pouvoir dès que le FN a une once de pouvoir. Et en plus, c'est un parti dont l'incompétence des cadres est flagrante. C'est un parti qui est extrêmement faible et qui serait bien incapable, simplement d'un point de vue technique, de gouverner le pays demain.
Est-ce que je peux revenir sur cette idée quand même que les politiques précédents ont failli? C'est vrai que c'est extrêmement compliqué, mais on est dans une période de l'histoire du monde depuis 89, en gros, chute du mur de Berlin, ça avait commencé peut-être un peu avant, où le monde entier est en train de se transformer à tout point de vue, géographiquement, les frontières se bougent, politiquement, économiquement, et c'est une rupture brutale, extrêmement violente, et qu'on peut pas résoudre tous les problèmes en 5 ans, en 10 ans, c'est le monde entier change comme il n'a jamais changé avant aussi rapidement. Et ça, il faut qu'on intègre ça, qu'on l'accepte, qu'il va falloir un peu de temps, qu'il faut qu'on se réorganise, qu'on réfléchisse à la société.
Cette vision à long terme, elle est sans doute importante, et c'est la vôtre,
parallèlement à ça, il y a le temps individuel qui lui est court, faut payer les factures tout de suite. Exactement. Quand on a faim, c'est maintenant.
Il y a le chômage, il y a tous les problèmes que l'on peut avoir au quotidien, et forcément quand on vit ces problèmes-là, la première chose c'est de le rejeter, l'inconnu, donc l'étranger, en disant c'est la faute de l'autre, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et puis on a beau reprocher aux puissants des fois d'agir bizarrement, on leur reproche de ne pas suffisamment agir pour notre bien quotidien.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas en se tournant vers Trump ou Poutine en l'occurrence que
les solutions. C'est clair.
Et là, c'est les références absolues, quoi.
Renaud Dely, je voudrais juste, avant de vous libérer, rappeler d'abord votre livre La vraie Marine Le Pen chez Plon, une bobo chez les fachos. Il y a la communicante aussi qui est présente, c'est-à-dire son art d'utiliser ses interventions à la télévision, la manière dont elle s'exprime, la manière dont elle se sert des médias, ou la manière dont elle se fait rare aussi dans les médias. C'est là où elle est extrêmement forte.
C'est
une avocate, il faut le rappeler.
Là encore, elle n'est forte que de nos faiblesses, et parfois à nous, journalistes. C'est-à-dire qu'on a aussi vu, on l'a aussi vu en difficulté parfois lorsqu'elle est interrogée, poussée dans ses retranchements sur des dossiers, elle est forte quand elle joue du système de communication plus que quand elle se heurte à un vrai questionnement, des vraies enquêtes.
Je me souviens d'une interview d'Anne-Sophie Lapix sur Canal qui avait été formidable.
Elle avait fait un formidable travail, ouais, en l'occurrence, c'était lors de la campagne présidentielle de 2012. Et donc là, ça se retourne contre elle. Lorsqu'elle est uniquement dans l'image, dans la com, effectivement, Marine Le Pen, elle a l'avantage par rapport à son père d'être une femme, d'être plus jeune, et donc d'afficher, d'essayer d'exhiber un profil un peu plus apaisé. Mais on voit très vite que, encore une fois, la filiation que je raconte aussi dans la bande dessinée,
d'ailleurs, sur la dynastie Le Pen. Exactement, avec Fred Kouakou.
Voilà, dans cette bande dessinée, la dynastie Le Pen qu'on a faite avec Fred Kouakou chez Delcourt, effectivement, on essaye de raconter que ce parti dont on parle là, et dont parle excellemment le film chez nous, c'est pas un parti qui est né il y a ne serait-ce que 5 ans avec l'accession de Marine Le Pen à sa direction. C'est un parti qui est profondément historicisé et qui demeure historicisé. Et aujourd'hui, Marine Le Pen voudrait nous faire le coup de l'ardoise magique.
C'est ça.
Voilà. Rien n'aurait existé avant et ce parti serait neuf et apparaîtrait comme la solution évidente. On raconte, on essaie de montrer très bien que c'est un parti qui, en fait, peut changer, y compris le discours, parfois les mots, parfois la façade de ce qu'est l'extrême droite depuis maintenant que la République existe, c'est-à-dire qu'elle a pu prendre différentes formes. L'extrême droite, elle change dans sa forme, dans ses méthodes, mais au fond, le projet reste le même, et en ce sens, Marine Le Pen est une digne héritière de son père et du Front National.
Et comme dans chez nous, il y a un casting pour aller chercher aussi Marion Maréchal Le Pen, pareil, avec Viala, ma nièce, je vais t'expliquer, tu vas débarquer dans le Vaucluse. Ah, dans le Bocuse, c'est loin, c'est où, je connais pas.
C'est une vraie dynastie familiale, on le voit, effectivement, et on s'est amusé en plus dans la BD à faire raconter l'histoire de la famille par Jean-Marie Le Pen à son arrière-petite-fille, c'est-à-dire à la fille de Marion Maréchal Le Pen, qui a encore à peine 3 ou 4 ans.
Et encore un effet de com' de refuser de porter le foulard devant le grand moufti, évidemment. C'était juste pour
l'image. Effectivement, ouais. C'était pour l'image. Et on peut redouter que ça ait aussi un impact assez fort si on va pas au-delà de l'image.
Ça marche, c'est que tout le monde en parle et qu'elle fait peut-être oublier les descentes, les perquisitions qui ont eu lieu au siège du Front National.
Ça marche surtout parce qu'on est à 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle et que ses concurrents à l'élection présidentielle, quels qu'ils soient, n'ont aujourd'hui comme seule activité que de se battre entre eux. Personne ne s'occupe du Front National aujourd'hui. Personne ne s'occupe de Marine Le Pen.
Mais moi j'ai l'impression qu'ils ont. J'ai jamais vu autant de fois Florian Philippot à la télé. J'ai l'impression qu'il est tout le temps invité partout.
Oui, mais surtout pour dire non, c'est faux sans rien de plus. Quoi.
Ouais, ça se demander si c'est lui qui invite Bourdin ou si c'est Bourdin qui l'invite. Non, je sais pas.
Merci Renaud Dely d'être venu. Merci en tout cas, et bravo la vraie Marine Le Pen chez Plon, une bobo chez les fachos et la dynastie Le Pen, c'est extrêmement drôle, mais ça fait peur quand même.
Signé
Renaud Dely et Fred Quaco et Renaud, on le retrouvera demain, donc dans la matinale, aux côtés de Daniel Morin, s'il est encore en forme. Vous êtes bien sur Inter et Lucas Bellevaux et Guillaume Guy sont nos invités jusqu'à midi et demi. Soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudali.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Pierre et Michel Barré.
Oui, bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Le Charles Armin qui est au clavier.
Bonjour.
Et nos invités sont Guillaume Guix et Lucas Bellevaux.
Bravo.
Le film s'appelle Chez nous, il sort aujourd'hui, c'est un film et pourtant c'est extrêmement proche de la réalité, ça a été finalement votre volonté permanente, que ce soit dans le fond comme dans la forme, que ce soit dans le texte, dans le jeu des comédiens, que dans la lumière, dans l'ambiance des villes et dans ce cadre, on va dire... des Hauts-de-France, pour reprendre l'expression.
Oui, ou du bassin minier, entre Lens et Béthune.
Oui, on voit une scène au ski, par exemple.
Oui, absolument.
Qui est réelle, qui est surprenante. Il y a plein de Français qui vont découvrir qu'on peut skier sur ces anciens bassins, mais c'est la réalité.
Oui, il y a une chose amusante avec cette piste de ski, c'est que c'est une fréquentation saisonnière. C'est-à-dire que les gens vont faire du ski l'hiver.
C'est étonnant,
ça, souvent,
oui,
ça, vous savez.
C'est étonnant. Alors que non, parce
mais là-bas, on peut skier l'été, puisqu'il n'y a pas de neige.
Finissez. Alors que mécaniquement, ça pourrait se faire tout le temps.
Ah, ça peut se faire tout le temps.
Mais il y a ce côté psychologique. Ouais. Du rêve à la réalité, ou jusqu'au cauchemar avec le personnage de Guillaume Guix, l'un des axes que vous montrez dans le film, c'est que finalement, malgré toutes les opérations de communication, de dédiabolisation du parti d'extrême droite de la dynastie Le Pen, il y a toujours ce noyau dur, mais au sens propre du terme, qui est violent, qui est raciste, qui est homophobe, qui est anti-tout.
Ah oui, anti-tout, mais surtout qu'il y a des liens même organiques avec le FN. C'est-à-dire que le FN ne veut pas les avoir sur la photo, mais les flatte aussi, ou garde des contacts.
Mais ils font la sécurité, ils font un service de renseignement.
Oui, et puis de temps en temps, ils font le coup de poing aussi. Hein. C'est, alors pas directement pour le FN, mais on les laisse faire. C'est-à-dire qu'on voit à Calais, par exemple, il y a des ratonnades régulièrement, où il y en a eu pas mal, en famille parfois.
Les gens vont pas le dimanche, famille, on sait pas quoi faire.
Ça rapproche les gens.
Dans le film, il y a quand même le personnage joué par André Dussolier qui dit au mien, qui est quand même un.
Alors on va rappeler que ce personnage donc est un docteur, parce que je tiens à donner toutes les professions, parce que c'est une infirmière, c'est un docteur, c'est un éducateur, c'est un professeur. C'est-à-dire c'est tout ce qui sont finalement ces métiers sont les fondamentaux de notre pays et les valeurs même de notre pays d'éducation. De transmission, de soins. Donc ce docteur en question travaille pour le parti d'extrême droite et cherche à enrôler ceux qui font cette vie quotidienne, cette proximité pour être sur la liste électorale.
Et il dit au mien, qui est quand même un néo-nazi qui ratonne le soir et met des roms dans des cages, qu'il aurait suffi qu'il mette une cravate pour être acceptable.
C'est ça.
Il fallait juste mettre un costume.
T'aurais pu faire un effort.
Ça change pas le fond de mettre un costume.
Et donc c'est aussi le message principal, c'est que tout est une question de maquillage, de communication et d'apparat. Mais dans le fond, ça reste des fachos.
Oui, oui, c'est un masque. On les entend sans arrêt, d'ailleurs, dire « nous ne sommes pas un parti d'extrême droite, on est juste la droite », etc. C'est invraisemblable. Quand on voit leur corpus idéologique, leurs références sans arrêt, il suffit d'aller voir en trois clics sur Internet, c'est incroyable. Ils ne se réfèrent qu'à Brasillac, culturellement, qui est quand même un écrivain fusillé, en plus pas terrible, un écrivain pas terrible fusillé pour collaboration Hard, Céline, c'est ces gens-là, leurs références culturelles.
Internet, vous en parlez aussi parce qu'il y a même chez des gamins, des ados, l'utilisation d'Internet avec la désinformation, avec aussi en récupérant des images réelles qui avaient été faites par Daesh, c'est-à-dire cette tour Eiffel qui explosait.
C'est vrai aussi, c'est des choses que j'ai trouvées sur Internet mais assez facilement. Hein.
Mais c'est ça.
Sur le cadre de...
Avantage et inconvénient d'Internet.
Mais oui, ouais. des ados qui ont beaucoup inquiété les policiers, qui ont trouvé des sites qui appelaient à la violence, à la guerre civile, à l'agression contre des musulmans, des choses comme ça. Ils se sont dit, on est tombé sur un groupuscule violent, et puis ils ont débarqué, ils ont trouvé des ados, quoi.
Comment on peut être ado comme ça et passer son temps libre à faire des sites internet en mettant des vidéos comme ça? C'est complètement fou.
En le faisant en cachette des parents, mais après ça crée même des tensions au sein même du couple. C'est-à-dire qu'on voit, sans doute, vous l'avez peut-être remarqué lors de votre investigation ou de vos recherches aussi sur le terrain, il y a vraiment des tensions qui se passent entre mari et femme d'un point de vue politique.
Dans les familles en général, dans les communautés au sens large, quoi, dans les clubs de foot, dans les bistrots, c'est un parti qui quand même provoque de la violence. C'est un langage brutal tout le temps, de l'agression. C'est un parti qui a besoin de se créer des ennemis pour resserrer ses troupes, pour fractionner la situation, la société.
Est-ce que justement vous avez été victime, vous, de menaces, que ce soit dans les projections que vous avez faites en province ou dans les différentes rencontres?
Non. Non, non, ça je...
À part les déclarations que vous avez reprises avec Malice pour faire votre campagne de publicité, d'ailleurs on a le droit, vous avez le droit de reprendre comme ça les déclarations de Florent Philippot et...
Oui, bon, enfin, c'est le distributeur qui s'occupe de ça, mais je pense que c'est qu'on a le droit. Mais ces déclarations, c'était une façon de sonner la Lali, parce que dans les heures qui suivent, Internet se remplit de textes absolument immondes, abjects, et qui reprend un peu les arguments qu'ils donnent.
Ils ont donné le champ lexical, en fait.
Et anonyme, en plus. C'est anonyme.
Et là, ce qu'on lit est épouvantable.
Et vous avez fait, évidemment, le film pour montrer aux gens un peu l'envers du décor, mais vous auriez été déçu que le FN ne réagisse pas du tout à votre film?
Non. Non, non, enfin ça... Enfin,
ça pouvait pas arriver.
Ça aurait été la chose la plus intelligente pour eux, en fait.
Bien sûr, mais ça veut dire que j'aurais raté mon coup aussi.
Ça
ne voulait rien dire, quoi. Ouais. Ou que j'étais à côté de la plaque et que c'était méprisable. Mais à partir du moment où c'était un peu juste, ou franchement juste, ils pouvaient que réagir.
Le film sort aujourd'hui, Marianne aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure lorsque Rododeli était avec nous, il y a à la fois le rapport qui accable Marine Le Pen en une avec des révélations faites par Marianne, et aussi le rapport extrêmement tendu en ce moment, enfin j'allais dire comme d'habitude, entre juges et politiques, pourquoi ils se détestent de Chirac à Sarkozy, de Cahuzac à Fillon, point de suspension, c'est ces points de suspension là qui me font encore plus peur. Voici, lui aussi il me fait peur d'ailleurs, voici l'humeur de Daniel Morin.
Vous avez bien raison. Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour de sortie ciné. J'en profite pour mettre en garde ceux qui n'ont pas encore vu le film 50 nuances plus sombres, le film érotico-SM, mais qui comptent bien y aller. Ne faites pas comme cet homme qui, à Cholet, a eu du mal à résister à l'excitation provoquée par les coups de cravache. Assis tout près d'un couple, il a commencé à se caresser dans le cinéma.
Non.
Eh ouais. Problème, c'est que le couple en question est un couple de gendarmes.
Oui, perdu.
C'est quand même dommage, hein, perdu. Alors non, on ne se masturbe pas au cinéma, non, ça peut choquer. Même si, ok, ce sont des choses qui arrivent. Je me souviens, il y a quelques années, oh là, j'avais dû aller chercher au commissariat quelqu'un qui s'était masturbé pendant une séance de La Reine des Neiges, debout sur son siège. Mais bon, on le sait, Pierre-Emmanuel Barré, quelqu'un de dérangé, donc on ne jettera pas la pierre.
Je pensais que c'était Nagui.
Mais non, c'était Pierre-Emmanuel. Cinéma toujours, parmi les sorties prévues, il y a donc Chez nous, eh ouais, dont on cause aujourd'hui dans la bande originale. Alors une fois de plus, on se moque, on se gausse des bons Français. On riconne au nez de la France blanche et fière de ses traditions. Avec la réception de Lucas Bellevaux, Ce film chez nous, on donne encore la parole aux ennemis de la démocratie. Ah, si on était sur Radio Facho, ce serait pas pareil.
Chers patriotes, bonjour, bienvenue sur Radio Facho. Radio Facho, la radio des Français blancs de peau. Une fois encore, sur France Inter, la radio bolchevique, on a souillé le panache du seul vrai parti démocrate français, le Front National. Front National, bloc patriotique, enfant martyr de notre président de toujours, Jean-Marie. Jean-Marie, capitaine flamboyant, visionnaire, malgré un œil de verre. Dans l'émission de la bande originale, conduite par Nagui, animateur sarrasin de petite vertu, grignoteur d'allocation familiale, et probablement à coquiner avec ses cousins terroristes du djihad. Eh bien, on a fait une tribune au réalisateur Lucas Bellevaux. Lucas Bellevaux, cinéaste communiste aux fréquentations rastaquaires, qui d'un trait de pellicule calomnieuse, diffame le travail, les efforts, le courage des militants du Parti de la Flamme tricolore. Quelle honte! Saluons au passage la très belle performance de Monsieur Gouix, très bon skinhead au grand cœur. Félicitations! Mais bientôt, tout cela va changer! Bientôt, messieurs les cocos, partisans d'un monde sans frontières, où se croisent, se mélangent et prospèrent les miasmes du multiculturalisme maghrébo-congoïde. Oui, vous ferez moins les malins, les amis. La victoire annoncée du 7 mai va mettre en sourdine les propos si calomnieux que scandaleux à l'encontre de notre guide, la belle Marine, qui, le regard droit, la mèche fière et la moustache bien taillée, prendra les rênes de notre pays, aujourd'hui moribond, accablé qu'il est sous le poids des multiples parasites bronzés qui viennent lui sucer la moelle. Ils feront moins les fiers, les journalo-gauchistes, style Renaud Delis, dont le regard rempli de vice et la démarche chaloupée trahit des pratiques copulatoires multiples et pluridisciplinaires. Ils n'auront plus le droit de citer, et Marianne Canard nauséabond n'aura plus droit qu'à un seul tirage, celui des cheminées où il finira. Quant à la bande originale, quand elle sera reprise par l'excellent Éric Zemmour, là, oui, ce sera du divertissement. Le malade mental dégénéré sexuel Pierre-Emmanuel Barré sera fusillé pour incitation à la déviance sodomite et sera remplacé par le brillantissime Jean Roucas, dont les saillies drôlatiques du bébé de show font toujours référence au panthéon de la comédie. Personne n'a oublié le fameux Gruic. En attendant la délivrance du 7 mai, Monsieur Bellevaux, je tenais à vous dire que oui, vous avez raison. On est chez nous, on est chez nous. Salutations, pardon.
Merci. Ça fait peur quand même, hein. Même si c'est de la vanne, ça fait peur, froid dans le dos. Leïla, vous vous ai réveillé.
Non, mais je pensais à ça aussi.
Ça fait peur. Ouais. Le brouillon de culture, le voici pour Guillaume Wicks et Lucas Bellevaux qui sont nos invités.
Un bol d'air pur, si tu veux. C'est notre brouillon de culture, Lucas, Guillaume, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Lucas.
Ausschnitte aus dem erregenden, spannenden und aktuellen Kriminalfilm.
Toi, tu cherches des problèmes, toi.
Que le Regisseur Fritz Lang für die Nero-Produktion geschaffen hat.
Marine au réveil.
Ça me rappelle ma grand-mère.
Vous avez reconnu Lucas Bellevaux?
Non. J'ai entendu Fritz Lang. Mais...
C'est ça, c'est M le maudit. Oui, c'est un extrait de la bande-annonce. C'est le premier film parlant du réalisateur. Ce film montre là les habitants d'une grande ville allemande jetés dans la terreur et aussi dans l'hystérie par un meurtrier d'enfants. Si bien que la police et la pègre se mettent ensemble à sa poursuite. C'est un film que vous placez, Lucas Bellevaux, au-dessus de tout. Pourquoi donc ?
Oh, parce que c'est un film sur à la fois sur la morale, sur la politique, sur une société justement où le fascisme monte, où tout le monde surveille tout le monde a peur de tout le monde. Et puis il y a cette chose extrêmement troublante dans M le Maudit, c'est qu'on a un personnage qui est le summum de l'horreur, c'est un assassin d'enfants, et en même temps, à la fin du film, il y a l'humanité. Le monstre devient notre semblable et qu'il a droit à notre respect. Comme ça, il y a un regard très très particulier de Lang et qu'on retrouve cette réflexion dans Fury, qui est un film absolument admirable aussi, qui est sa période américaine, donc c'est 15 ans après. Qui est là aussi extrêmement troublant sur la justice, la morale et l'humanité.
Y a-t-il des films, Lucas Bellevaux, qui ne soient pas des films engagés, un peu à tendance politique, qui vous plaisent ? J'ai l'impression que vous avez des références cinématographiques très pointues, très orientées aussi, on le voit dans votre travail. Si on devait parler d'autres films qui vous animent,
Il y a le petit baigneur que j'aime beaucoup.
Non, Daniel.
Il y a
le gros baigneur avec Daniel Morin.
Et le gros baigneur avec Nagui.
Ok, très bien.
Atari de Howard Hawks, les films d'aventure. Oh, bien sûr, bien sûr.
Des films absurdes aussi, des comédies
Oui, les Monty Python, oui. Jacques Tati, bien sûr. Mais là, il se trouve qu'avec la sortie de ce film, oui. On parle beaucoup de politique, mais bien sûr.
Et vous, Guillaume Wix, on parlait tout à l'heure d'Opening Night de Cassavetes. Il y a une scène, je crois, importante avec Jenna Rollands et John Cassavetes qui jouent deux comédiens de théâtre. Ça m'a fait penser au roi du monde de Lafargue quand Céline Salette donne cette leçon de théâtre aux élèves sur scène. Et là aussi, c'est une scène culte pour vous. Qu'est-ce qui vous a autant inspiré? Il y a cette scène de la gifle, en fait. Il répète une scène de gifle. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette scène-là? Pourquoi cette fixation sur cette scène?
C'est très organique, quoi. Non, c'est elle, juste, je suis vraiment fasciné par elle, par comment elle s'oublie, comment... Quand elle joue, il y a un mélange de pudeur et d'oubli total. Et j'aime bien... Pardon, j'aime bien l'idée que les acteurs sont beaux quand ils sont bien regardés. Et eux, dans leur parcours, c'est ce qu'on voit, quoi. Elle est jamais aussi forte et grande que regardée par cet homme-là. Et je suis un rêveur, moi j'aime bien les muses et tout ça.
Et qui vous a le mieux regardé dans votre filmographie?
Sa mère, moi, de le dire. Sa mère.
Non, je sais pas.
Vous avez la sensation d'être bien regardé. Après, il y a des rôles qui s'y prêtent plus ou moins.
Je fais tout pour, en tout cas. J'essaye d'aller vers des gens dont j'aime le regard. Voilà. Mais je sais pas qui m'a le mieux regardé. J'ai toujours l'impression que c'est le film d'après.
C'est le film d'après, celui qui viendra. Alors on poursuit.
Prenez-le bien, Lucas Bellevaux.
Oui, oui, oui. Je sais pas
quoi. Dans ce rôle-là.
En même temps, il regardait par terre, donc ça joue.
Mais c'est vrai que moi, je vous attends bien dans un rôle un peu plus tendre, un peu plus doux, parce que je vous vois souvent.
Pourtant, il va jouer Alain Prost. Enfin, je crois, hein, vous êtes dans le biopic d'Alain Prost, c'est ça?
C'est ça, on le tourne l'été prochain.
En pneu tendre, donc.
Je te dis rien de plus, on poursuit avec un son pour vous, Guillaume, justement.
You know, like I became a big Roxy Music fan when they did Stranded, and after that, it was my unfortunate experience to meet Mr. Ferry at a party. Where I want to go up and say, Brian Ferry, you're my hero, I love you, you know, a great record. This man was so bland that he was standing there in this white tuxedo with a cigarette.
C'est le, rock, c'est le critique de rock Lester Bangs racontant sa déception lors de sa rencontre avec Brian Ferry, le leader dans les années 70 de Roxy Music. Lester Bangs qui a été le héros en 2013 d'une pièce que vous avez coécrite.
C'est ça, ouais.
Un jour, quelqu'un que j'aime m'a dit, tu me frappes avec tes yeux. Mmh. C'est ça, c'est le nom de la pièce. Une pièce qui s'interrogeait sur ce côté rock, punk.
Ouais, c'était avec un peu de distance et d'humour, mais c'était sur le terme rock'n'roll qui est galvanisé aujourd'hui, voilà, où quand on met des converses, on dit qu'on est rock, ou quand on boit une bière le soir.
Guillaume Canet,
galvaudé.
Voilà, le terme.
Oui, il y a le film de Guillaume Canet, ouais, rock'n'roll. Ouais. Ouais.
Bah alors, je ne l'ai pas vu pour le coup, donc c'est
très drôle.
Mais je vais aller le voir. Mais
très drôle.
Je trouve que c'est un terme qui revient souvent et on ne sait pas vraiment de quoi ça parle, donc on était parti de ça. Et c'était une écriture sur scène, en fait, en partant d'impro et de textes de Lester Bangs.
Et vous continuez à écrire, vous continuez à avoir des projets, je pense, de réalisation
Ouais, un peu vague, parce que là, j'ai fait deux courts-métrages et puis là, j'ai pas mal de projets. J'ai la chance d'avoir des projets chouettes comme acteur. Donc,
Oui, et Gaspard va au mariage, c'est ça, avec Marina Foïs aussi.
Oui, ça c'est tourné déjà.
C'est
ça
déjà
va
tourné.
Sortir l'an prochain. D'accord. Avec Marina Foïs, Félix Moati.
Et le pros dont on parlait, il y a autre chose?
Et avant Proche, je fais un film de Guillaume Niclou avec Gaspard Ulliel et Gérard Depardieu. Sur la guerre d'Indochine, voilà. On commence bientôt.
Et je finis avec un cadeau pour chacun. Une bande dessinée pour vous, Lucas Bellevaux. L'anniversaire de Gaston Lagaffe. Il fête ses 60 ans, cet anti-héros magnifique devenu culte. Voilà, ses nouvelles aventures, c'est chez Dupuis. Et ça vient de sortir, c'est tout frais, tout neuf. Et parce que Guillaume a eu une BD tout à l'heure, donc voilà, on
tu
échange.
Équilibre, les
j'équilibre,
les cartes,
c'est bien. Moi, c'est bien. Je suis, voilà. Et pour vous, Guillaume, je vous offre
un livre
nouvelle...
qu'avec des mots, pas de dessin.
Un livre qu'avec des mots et qui est lié à la thématique.
Le dictionnaire des antonymes.
Nouvelle du front de Marine Tondelier, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Comment vit-on sous le FN? C'est l'histoire, c'est le récit de cette jeune élue de l'opposition qui vit à Hénin-Beaumont, qui raconte sa ville natale qui se transforme jour après jour. Qu'est-ce que ça fait d'être sous le pouvoir du Front National dans une ville? Quelles sont les conséquences directes? C'est
chaque
son récit.
Chaque fois que tu as des livres, j'ai l'impression d'être avec Julien Lepers. C'est terrible.
Chez nous sort aujourd'hui et chez nous à Paris, il y a cette chanteuse, actrice, comédienne Yasmine Hamda qui chante La Baden, et j'adore ce titre, je trouvais que c'était bien de l'écouter aujourd'hui. La Baden, donc, c'est le titre. Yasmine Hamdan, et cette jolie chanteuse et actrice libanaise qui vit à Paris et qui fait de la musique, comme vous l'avez entendu, un peu électronique et underground. Daniel, on voit bien, Daniel Morin, que les partis populistes n'hésitent pas à fabriquer de toutes pièces des candidats qui collent avec leur communication. C'est juste du marketing, c'est ce qu'on voit dans Chez Nous, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec Renaud Délire.
Oh, le petit salaud. Réjouissance, torture et peine de mort. Voilà les mots qui résonnent à mes oreilles quand je vous entends. Monsieur Guy. Au nom de tous les êtres humains et de Pierre-Emmanuel Barré réunis autour de cette table, je vous dis merci. Merci de nous tolérer à vos côtés, puissants pharaons des bords de Seine. Pourtant, on sent bien qu'on est mercredi et que vous pensez plus à votre rendez-vous épilation intégrale de cet après-midi qu'à essayer de faire une émission correcte. Hein.
Salut.
Et ce n'est pas en conviant Renaud Dely, ex-star du porno argentin devenu journaliste politique sur le tard, qu'on va s'en sortir. Et puis merde, si vous préférez avoir des leaders politiques uniquement des gens corrompus comme vous, qui ont fait des études, pas comme vous, eh ben, c'est votre choix, mon petit bonhomme. Des candidats choisis pour aller coller à la commission du parti, c'est pas du marketing, c'est juste du génie. Les candidats FN sont en symbiose avec le peuple. Est-ce un mal? Les candidats du FN connaissent les problèmes du peuple. Est-ce une tare? Les candidats du FM aiment le peuple, le vrai. Doit-on leur jeter la pierre? Bien sûr que non. Laissons le Front National et sa fière pouliche au panache blond donner un sens aux gens qui les représentent et qui le méritent, qui leur ressemblent également, des gens pétris de générosité. Et au fond, vous le savez bien, regardez-moi quand je vous parle, monsieur Guy, pardon. Vous le savez bien, vous qui, il y a de
quel
cela...
Quel âge je dois regarder?
Quelques temps, regardez-moi au milieu, il y a de cela, quelques temps, étiez membre de RFO, Rassemblement des fascistes orientaux, et fondateur du MEDEF, Mouvement égyptien des élégants fachos. Voilà, monsieur Guy, on n'a pas de le soir, se voir une fois de plus, une fois encore, désolé, mais vous avez dit
n'importe quoi.
Chez nous, le film sort aujourd'hui, le film de Lucas Bellevaux avec Émilie Dequesne, André Dussolier, Guillaume Gouy, c'était notre invité à vos côtés, Lucas Bellevaux, Catherine Jacob, Anne-Marie Vin. Ce film sort aujourd'hui avec pour vous l'espoir, non pas finalement d'un nombre de spectateurs importants, mais
si aussi.
Aussi.
mais qui si ça peut faire 25%, c'est pas dégueu non plus.
Qu'il y ait deux, trois personnes qui sortent de la salle en disant, en se sentant un peu plus, quoi, au courant de ce qui se passe réellement.
Oui, d'une part, et puis que d'autres qui avaient tendance à plus rien dire face à ce discours-là, reprennent un peu la parole et affirment leurs convictions aussi.
Merci d'être venu chez nous, Lucas Bellevaux, Guillaume, exportez-vous bien. Des excuses à présenter, Daniel?
Oh, des excuses déjà. Désolé pour Lucas Bellevaux et Guillaume Gouix qui ont été légitimement affligés par Tom Villa et Pierre-Emmanuel Barré. Ce matin, c'était racisme, homophobie au menu. Mais comme disait Leïla à la pause, après tout, on est chez nous. Désolé pour nos auditeurs racistes, et il y en a, légitimement fans de Nagui, qui ont été choqués par l'émission de ce matin. Tenez le coup, on se rattrape vendredi, on dira du mal des prisons avec Rachida Brakni. Désolé pour les fans de Lucas Bellevaux qui ont découvert ce matin, que c'était une petite midinette, une petite chochotte, fan de la chanteuse Jennifer et fan de la coiffure. Eh oui, ça fait mal. En même temps, il s'en fout, il est déjà parti se faire faire une French pédicure.
Merci Daniel Morin, bonne journée. Vous retrouvez tout de suite Philippe Bertrand et cette carte de campagne.
Merci Nagui, merci la bande, à demain.